Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons partager la lecture d'un ouvrage sorti chez La Boîte à Bulles, petite maison d'édition, enfin c'est comme ça qu'on pourrait la présenter, maison d'édition indépendante, qui nous propose une forme de biographie en quelque sorte de Beate et Serge Klarsfeld, deux personnages a priori bien connus, et pourtant pas tant que ça, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été l'occasion de découverte, un ouvrage qui est sous-titré « Un combat contre l'oubli » avec au scénario Pascal Bresson et au dessin Sylvain Dorange. Nous reviendrons d'ailleurs sur le dessin parce que s'il ne nous a pas pleinement convaincus, finalement je trouve qu'il s'adapte bien à ce récit, un récit qui nous parle d'un couple absolument étonnant, je crois qu'on peut le dire Thierry.
Oui, j'avoue modestement que je les connaissais sans les connaître. Je les connais par les épisodes ultimes de leur parcours, notamment le procès Klaus Barbie. Mais j'ai découvert l'origine de leur combat, la force de leur amour en tant que couple. Et puis, toutes les péripéties qui ont animé toutes ces années. Replacé dans le contexte, c'est aussi un document sur une période bien précise qui explique aussi les méthodes employées pour parvenir à leur fin. C'est un livre qui est une sorte de révélateur pour moi.
Voilà, on va entrer un petit peu plus dans le détail, parce que effectivement, on a entendu parler du couple Klarsfeld, mais au bout du compte, on ne sait pas forcément quel a été ce parcours en détail, parce qu'il a commencé il y a bien longtemps. Alors peut-être est-ce qu'on peut rappeler déjà quelles sont leurs origines, celles de Serge Klarsfeld tout d'abord.
Lui est français, il va être victime de la répression nazie pendant l'occupation, puisque son père va être déporté, va mourir en camp d'extermination. Avec sa famille, il va échapper de peu à la déportation en connaissant le sort des enfants, enfin des familles juives traquées, toujours à la merci. Chaque jour est un jour de survie. C'est quelqu'un qui va émerger de la période de la guerre avec des idéaux, avec la possibilité de les réaliser par une rencontre exemplaire, celle de Beate. Beate, c'est une Allemande qui est employée comme jeune fille au père en France. Il l'aborde sur un quai du métro. À croire que sa personnalité magnétique l'avait déjà attiré.
En tout cas, ça marche très rapidement, oui.
Ça, voilà, ça matche très rapidement, comme c'est on ça. Dit aujourd'hui, de façon triviale.
Alors, elle, a priori, elle n'a rien pour se rapprocher de lui, en fait.
Enfin, oui, ces deux parcours sont vraiment très différents l'un de l'autre. En préparant l'émission, je me faisais la réflexion, l'immédiate après-guerre, que ce soit en Allemagne, en France ou dans d'autres pays, mais je parle des pays qui sont concernés par la période de l'occupation plus précisément, il y a une grande partie de l'administration allemande, de l'administration française, qui n'a pas eu d'épuration au sens le plus large du terme. Alors, je vais me risquer, je ne suis pas historien, puis je n'ai pas une compétence particulière en ce domaine. Hein. Je vais me risquer à émettre une hypothèse personnelle. Donc, si des auditeurs veulent compléter d'une façon plus pertinente, qu'ils n'hésitent pas. Je pense que dans l'esprit des autorités, épurer totalement l'administration dans ces deux pays, c'était la décapiter. Beaucoup de gens étaient concernés par la collaboration. Alors, je ne suis pas en train d'excuser la collaboration, c'est même tout le contraire. C'est une explication très cynique et très mécanique du fait qu'on ait laissé des gens faire une très belle carrière. Je pense à des gens qui vont être incriminés par les Klarsfeld. Je pense à Maurice Papon, qui a fait une magnifique carrière dans la haute administration alors qu'il était responsable de faits haïssables pendant l'occupation. Et en Allemagne, on a vu des politiciens mener une magnifique carrière aussi dans la haute politique alors qu'ils avaient été nazis. Beaucoup de gens étaient forcés d'adhérer au parti. Enfin bon, ça mériterait une émission, deux émissions à elle toute seule pour débattre de ce sujet.
D'ailleurs, le terme épuration a un double tranchant en quelque sorte, hein, parce que c'est bien de vouloir rendre pur, mais rendre pur à quel prix? Enfin, qu'est-ce que ça implique, etc. On pourrait effectivement débattre pendant longtemps là-dessus. On s'aperçoit en fait que les gouvernements, que ce soit le gouvernement français, allemand ou américain par exemple, hein, ils vont s'adapter, ils vont s'accommoder, oui, en effet.
Je dirais que le cynisme des Américains, même au-delà de l'imaginaire, parce qu'ils ont aidé à des opérations d'exfiltration des nazis vers l'Amérique du Sud, nazis qui ont mis leurs compétences, entre guillemets, au service des dictatures sud-américaines, dont les Américains ayant l'obsession de contrer l'influence communiste dans ces pays. Je rappelais ces péripéties de l'histoire pour préciser le point de vue, je pense, de Beate Klarsfeld, qui est d'une autre génération. C'est une jeune femme dans les années 60 et elle est représentative des changements de société dans les années 60, il y a l'émergence de ce qu'on appelle la jeunesse, avec une culture des jeunes, des goûts propres à une certaine jeunesse, et puis une volonté de bousculer le vieux monde, pour employer une expression très à la mode aujourd'hui, y compris d'une façon très violente, parce que aussi bien dans ce livre que dans le livre dont nous parlerons la semaine prochaine, on replonge dans une époque où la contestation est hyper violente. Ça, je ne sais pas si on s'en souvient assez bien. Et Béateux, c'est ce que j'ai découvert dans cet excellent livre, c'est une femme qui n'a peur de rien. C'est un élément moteur. On va dire que Serge, c'est le socle, et Béateux, c'est la superstructure. Il y a deux événements qui sont racontés dans ce livre, qui sont vraiment un fil rouge dans leur parcours. Il y a un geste fondateur, là on peut vraiment parler de geste, c'est qu'à un congrès de la CDU allemande, elle va gifler le nouveau chancelier Kissinger, en le traitant de nazi en public. Donc scandale.
Ce qu'il était au demeurant.
Ce qu'il était, mais ce que personne n'avait osé dire, et surtout le manifester d'une façon violente, une agression physique. C'est vraiment un électrochoc dans l'opinion publique allemande. Et le deuxième fil rouge de cet album, c'est, je l'ai évoqué dans la présentation, c'est la traque de Klaus Barbie.
Quand on lit ça, enfin moi je ne savais pas du tout que ça avait commencé ainsi en quelque sorte, hein. Je me dis, c'est incroyable, quel courage.
Je crois que c'est Arnaud Klarsfeld qui dit que Beate Klarsfeld, c'est Raon. C'est une femme d'une énergie, d'une force de conviction. Alors, je ne suis pas en train de rejeter dans l'ombre Serge, mais c'est quelqu'un qui a affronté des dangers physiques, des épreuves physiques, parce qu'elle a été menacée. Alors, le couple a été menacé physiquement. Ils ont été victimes de plusieurs tentatives d'attentats à la bombe, de menaces d'intimidation diverses et variées. Mais s'est déplacée dans les dictatures d'Amérique du Sud pour aller chasser Klaus Barbie. Elle a utilisé des méthodes que les Allemands auraient qualifiées de terroristes pendant la guerre, c'est-à-dire des tentatives d'enlèvement, des actions violentes, des passages à tabac, des agressions physiques, totalement justifiées par sa mission. J'espère que je vais être bien compris en disant ça. Donc, sur quoi c'est une femme? C'est quelqu'un qu'on prenait pas forcément au sérieux parce que c'était une femme, qu'on avait tendance à mépriser parce que c'était une femme. C'est un combat pour la mémoire et les minorités quelque part. Là encore, je me réfère à la chronique à venir où on va parler d'un personnage féminin militant. C'est une histoire beaucoup plus complexe, enfin, d'une richesse encore à soupçonner, parce que c'est un combat pour les droits des femmes et la reconnaissance, la puissance des femmes, la capacité des femmes à faire bouger les choses.
Souvent, Beate et Serge Klarsfeld ont été rangés dans le rayon chasseur de nazis. Mais dans cet album, on s'aperçoit que, en fait, c'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est de ne pas oublier.
Là encore, c'est une interprétation personnelle. Évidemment que ce sont des chasseurs de nazis, parce que c'est une formule pratique à l'emploi pour désigner leur mission, leur sacerdoce, leur obsession, noble obsession. Mais je pense qu'ils étaient avant tout motivés par une chose, c'est le devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas les victimes de ces nazis. Je pense qu'après la guerre, les survivants de la Shoah, ils étaient souvent partagés entre deux choses terribles. C'est pourquoi j'ai survécu moi et pas les autres. Donc une forme de culpabilité atroce. Et puis l'envie de plus parler de ça parce que c'est tellement indicible. Il y a des gens qui se sont faits avec beaucoup de talent les porte-parole de tous ces anonymes, de ces victimes anonymes, Primo Levi entre autres. Mais je pense que beaucoup de survivants, comme les poilus de 14, ne voulaient plus en parler. Je pense aux poilus de 14 parce que j'avais un grand-père qui avait fait Verdun, le chemin des dames. Il n'en parlait jamais parce que c'était ressusciter des choses tellement innommables que c'était impossible. Et les Klarsfeld ont milité pour que ces gens-là, lors des procès des criminels nazis, ils aient la parole. C'est-à-dire qu'ils existent à nouveau, ils ont valeur de témoins, et puis aussi que ces témoignages soient enregistrés, qu'ils soient filmés parfois, qu'on puisse, après leur mort, parce que ces gens-là ne sont pas éternels, bien sûr, qu'on puisse dire tout ça est vrai. Parce que du vivant des Klarsfeld et de ces victimes, il y a des négationnistes. Alors, imaginez ce qui va se passer quand tous ces témoins seront morts. On dira, bof, non, ça n'a pas existé, ou c'était pas si terrible que ça, c'était des camps de prisonniers. Ben, si ça existait, je vous le prouve. Moi, je l'ai vécu. Et c'est la mission fondamentale des Klarsfeld, je pense.
Moi, il y a aussi un personnage qui est journaliste auquel je voudrais rendre hommage. J'ai découvert, en fait, son rôle dans cette histoire. C'est Ladislas de Hoyos, que l'on a vu au niveau du journal télévisé. Alors, ça remonte à il y a quelque temps déjà. Il n'est donc plus de ce monde, mais il a joué un rôle tout à fait essentiel par rapport à Klaus Barbie. C'est lui, en quelque sorte, qui l'a coincé et qui a amené à, sans qu'il le veuille, reconnaître ce qu'il avait fait. Alors que Klaus Barbie, manifestement, était quelqu'un capable d'un très, très grand cynisme.
Oui, c'était jusqu'au bout, quasiment, il aura nié. Tant qu'il n'avait pas été vraiment coincé, il disait « Je ne m'appelle pas Klaus Barbie, je suis Klaus Altman, je ne suis pas nazi, je n'ai torturé personne. » Disant ça avec un aplomb, puis un cynisme, vous le disiez, confondant. Vous faisiez allusion au dessin, on devait y venir à un moment ou un autre. C'est vrai que le dessin n'est pas ce qui nous a retenu particulièrement dans cet album, mais si, il ne vient pas gêner la narration. Mais puisqu'on parlait de Klaus Barbie, j'allais dire magnifiquement, non, c'est horrible.
Dans l'horreur, oui.
Il est incroyablement bien rendu avec un regard d'une méchanceté. C'est l'enfer qui vous regarde quand on plonge ses yeux dans les siens.
Et le sourire qu'il avait toujours sur les lèvres, ou presque. Hein.
On le découvre caressant un chat alors qu'il s'apprête à interroger des juifs. Enfin, c'est terrible. Oui. C'est très bien rendu par le dessin.
Voilà, bon, on pourra en dire beaucoup encore sur cet album et puis sur l'histoire de Beate et Serge Klarsfeld. Le sous-titre, c'est donc « Un combat contre l'oubli » et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut prendre ce livre et pourquoi pas en lire beaucoup d'autres sur le sujet. Il y a évidemment largement de quoi faire. Cet album est paru aux éditions La Boîte à Bulles, au scénario, je le rappelle, Pascal Bresson et Sylvain Dorange au dessin. Un album que nous vous conseillons et puis une invitation à se plonger donc dans toute cette histoire qui fait encore écho aujourd'hui, et ce sera le cas la semaine prochaine pour ceux dont nous parlerons. Donc Thierry, rendez-vous est pris. À très bientôt.